Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informés de l'actualité scientifique. Et vous avez raison, je m'appelle Jean-Noël, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 16 janvier. Nous allons feuilleter l'actualité scientifique, essayer de voir un petit peu ce qui se passe dans notre monde qui nous entoure. On fera le point, alors on parlera de ces fameuses enzymes qui dévorent le plastique, je vous l'avais promis la semaine dernière. Et on n'a pas eu le temps, donc on va voir ça aujourd'hui. On va parler de ces soldats augmentés, entre guillemets. On parlera des cigarettes électroniques, on parlera du cœur artificiel. On en avait parlé il y a quelques années dans cette émission, et donc là, ça y est, il va pouvoir être commercialisé. C'est quelques exemples d'articles que nous avons développés dans cette émission de Biotine. Vous nous écoutez sur graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet, en direct ou en différé. Vous pouvez récupérer bien sûr les podcasts de cette émission. La bande FM, le 94.9 pour ceux qui nous écoutent dans l'Aisne, l'Oise et la Somme. Et je vous salue, vous qui nous regardez sur Facebook Live, sur la page Facebook de Graphite. Vous vous connectez donc sur la page Facebook de Graphite. Vous likez en même temps la page Facebook. Et vous pouvez nous suivre donc pour cette émission d'une heure. Sur l'actualité scientifique. Je ne l'ai pas évoqué la semaine dernière, c'est un oubli de ma part, donc je vais en profiter. L'émission de la semaine dernière était quand même assez chargée, j'ai pas eu le temps de tout évoquer, et j'ai totalement oublié d'évoquer la campagne de dons pour nous aider, pour aider Graphite. Vous voyez que nous sommes en train vraiment de vous proposer plusieurs émissions de qualité avec des supports maintenant médias vraiment performants. Continuez à nous aider. Il y a une actualité au niveau de Graphite en 2021 aussi qui fait que nous allons pouvoir un petit peu prendre un petit peu plus d'ampleur et on a besoin de votre aide. La période récente est quand même assez compliquée, il ne faut pas se leurrer. Et donc, si vous souhaitez participer à cette campagne de dons, n'hésitez pas, vous vous connectez sur le site internet de Graphite et vous suivez toutes les instructions et nous vous remercions par avance de votre aide, bien évidemment. Nous sommes le 16 janvier, au niveau de l'éphéméride. Pas mal de choses encore au niveau science et technique. En 1937, je vais y arriver le 16 janvier, c'était le premier vol expérimental du prototype de bombardier Lioré et Olivier en 1937. En 1947, l'avion à réaction le plus rapide du monde est britannique, qui s'appelle Gloster Meteor. En 1969, un 16 janvier, ce sont deux vaisseaux spatiaux soviétiques, Soyuz 4, Soyuz 5, qui réussissent le premier amarrage en orbite, en 69 quand même. 69, grande année spatiale, notamment avec la Lune, bien évidemment. Et en 2003, le décollage de la navette spatiale Columbia pour une mission au cours duquel il y a un morceau de mousse isolante du réservoir principal qui va se détacher et qui va percuter son bouclier thermique, ce qui va s'avérer fatal en 2003, ce qui va amener la désintégration de la navette lors de son retour dans l'atmosphère le 1er février. Les 7 membres de l'équipage furent tués à cette occasion. C'était donc le décollage avait lieu le 16 janvier 2003. Enfin, en 2005, on s'en souvient peut-être, ça avait quand même fait parler à l'époque, une Roumaine de 67 ans donne naissance à une petite fille grâce à une fécondation in vitro. C'était en 2005 déjà, il y a 16 ans. On en avait quand même parlé dans les médias à l'époque. Au niveau de l'éphéméride, naissance le 16 janvier 1813 d'Antoine Yvon Villarceau, ingénieur, astronome, mathématicien français. Et le décès le 16 janvier 1903 à Paris de Romain-François Bigot. Ah, Bigot, ça nous dit quelque chose. Eh bien oui, c'est bien le bigophone que je vous parle de ça. C'est un instrument de musique un peu carnavalesque, qui est assez bruyant, il a un aspect décoratif assez sympa, c'est populaire, c'est bon marché, c'est facile à fabriquer. Et en fait, le bigophone, donc qui vient de cet inventeur Romain-François Bigot, le bigophone est un peu aujourd'hui tombé dans l'oubli, parce que le mot, il n'évoque plus que en fait, l'aspect téléphone pour la plupart des gens. Bigophoner, ça signifie téléphoner, bien sûr. Et en fait, c'est le fait que le son un peu nasillard des premières voix qu'on entendait quand on utilisait les premiers téléphones, ça rappelait un peu le son de ces bigophones. C'est pour ça qu'on avait un petit peu associé les deux. Ce qui fait donc que ce mot bigophone commence très tôt à être utilisé familièrement pour désigner le téléphone. Et c'est resté un petit peu dans subconscient collectif qui fait qu'on parle de bigophone, mais en fait, ça n'avait aucun lien. Le bigophone n'est pas un téléphone. Mais bon, voilà, c'était à l'époque, et c'est la mort, donc le 16 janvier 1903 à Paris, de Monsieur Bigot. Je vous parlais de la semaine dernière de ces enzymes qui dévorent le plastique. On sait, on a fait des analyses et on considère qu'environ un quart du plastique est recyclé en France. Et en fait, le plastique, il est souvent mélangé à d'autres matériaux, ce qui fait que c'est difficile de pouvoir le séparer, enfin séparer les différents matériaux, et c'est assez difficile de pouvoir le réutiliser. Si bien que, si on prend l'exemple des vêtements, ils sont souvent constitués de fibres de polyester et de coton. C'est pas simple. Plus de 700 000 fibres de microplastique peuvent être relâchées lors d'une lessive. Avec des vêtements synthétiques. Et évidemment, toutes ces fibres de microplastique, elles se retrouvent dans l'eau et après, ainsi de suite, ça va jusqu'au niveau des océans. Pour résoudre ce casse-tête, des scientifiques britanniques affirment avoir créé une espèce de super-enzyme qui va être capable de dégrader ce fameux plastique. Alors, le PET, c'est le polytéréphtalate d'éthylène. Ne l'apprenez pas par cœur, mais c'est une catégorie de plastique. C'est l'un des plastiques les plus communs. Et donc, cette super enzyme est capable de pouvoir dégrader ce plastique 6 fois plus rapidement qu'avec des procédés qui existent actuellement. En fait, en 2016, il y a déjà des chercheurs japonais qui avaient découvert dans une décharge de plastique une espèce de bactérie, dont je vais vous épargner le nom qui est imprononçable. Et cette bactérie, elle produisait des enzymes qui étaient capables de grignoter un petit peu ce plastique. Le plastique est un polymère, donc un constituant de différents éléments. Et donc, cette enzyme était capable de pouvoir couper un petit peu ce polymère, ce qu'on appelle dépolymériser. Et cela assez rapidement, parce que ça se faisait en 6 semaines, ce qui est quand même pas mal pour une enzyme. Et il y avait également une autre équipe de chercheurs qui avait essayé de créer une version un peu améliorée de cette enzyme. Et c'est une nouvelle étape qui est donc franchie il y a quelques semaines. C'est une information qui date de cet automne. Elle n'est pas totalement récente, mais comme je n'avais pas eu le temps dans cette émission qui avait été interrompue à cause du confinement, je n'ai pas eu le temps de l'évoquer. Je vous en parle aujourd'hui en janvier. C'est cette nouvelle étape qui a été franchie dans cette recherche sur ces enzymes avec l'association de cette enzyme qu'on a un peu améliorée, donc cette enzyme un peu mutante, entre guillemets, qu'on associe à une autre enzyme également qui a été fabriquée. Et l'idée, c'est de pouvoir associer ces deux enzymes pour les rendre encore plus performantes, pour l'aider à découper ce plastique de façon encore plus rapide. Et le fait, justement, de pouvoir connecter ces deux enzymes, on a fait plusieurs expériences et on s'est rendu compte que la vitesse de réaction était significativement améliorée. Donc, c'était tout bénef en clair. C'est ce qu'explique John McGannan, qui est professeur à l'université de Portsmouth et qui est l'auteur de cette étude qui a été publiée notamment dans la revue PNAS. Cela montre tout le potentiel des ce qu'on appelle cocktails d'enzymes pour justement être en mesure de dépolymériser le plastique. Il y a également une start-up française en avril dernier qui avait annoncé avoir développé des enzymes capables de dégrader ce polymère, également plastique. On en avait parlé dans l'émission Biotine l'année dernière également. Mais le procédé qui était utilisé nécessitait de chauffer le plastique à 70 degrés. Donc c'était quand même assez contraignant. Là, on est sur le fait qu'on peut dégrader du plastique à température ambiante. Donc on est quand même sur une situation un peu plus facilitée, bien évidemment. Et si nous pouvons lier nos enzymes améliorées à celles d'autres qui ont été découvertes et synthétisées par d'autres laboratoires, on a l'idée de pouvoir démarrer des usages industriels d'ici 1 à 2 ans. C'est quand même assez important et assez fascinant. C'est tout l'intérêt de cette super enzyme qui pourrait donc digérer des fibres naturelles comme le coton et de dégrader donc des vêtements en fibres mixtes. Ça pourrait être vraiment totalement intéressant. Il est assez étonnant de constater que les bactéries s'adaptent rapidement pour digérer un matériau qui n'existaient pas il y a encore 30 ans. Franchement, c'est quand même assez fascinant. Et elles ne sont pas les seules. Il y a à peu près une dizaine d'années, des chercheurs avaient découvert en Amazonie un champignon qui était un peu en train de gloutonner le polyuréthane, qui est un plastique très utilisé dans l'industrie, notamment dans les peintures, dans les mousses isolantes. Donc on avait déjà découvert ça. Et en 2017, une apicultrice avait constaté que la larve d'une certaine catégorie d'abeilles raffolait, elle adore le plastique, notamment le polyéthylène. Très bien. Donc il y a différentes pistes qui sont mises en place, mais ce qui est intéressant dans cette découverte assez récente et annoncée, c'est que là on arrive un petit peu au stade ultime où on va pouvoir industrialiser cette technologie et du coup on est en train d'ouvrir une porte sur une découverte sensationnelle, parce qu'on sait très bien que la pollution plastique est une calamité, notamment dans les océans, et si on arrive à trouver quelque chose assez naturel, entre guillemets, pour pouvoir résoudre cette problématique de ce plastique qui se répand un peu partout, ça serait quand même assez bien. Donc voilà, c'était une information qui date de septembre, je crois, de mémoire, que je n'avais pas eu le temps d'évoquer avec vous dans cette émission, et je voulais aujourd'hui prendre le temps de pouvoir remercier ces super enzymes qui vont pouvoir nous aider justement pour dévorer le plastique. Voilà, c'est Biotine sur l'antenne de Graphite. On va continuer à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique, et pour cela on va écouter un petit titre et on se retrouve juste après. Vous écoutez Biotine sur l'antenne de Graphite, à tout de suite. Tequila zombie, the final line.
much brain, need more ass. Amber Waves was my mother. Ooh-la-la. Swastika. Still glowing.
Hey Bondy avec Diamond Skull sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour un petit peu s'informer de l'actualité scientifique, technologique. Parce qu'il y a des choses qui se passent autour de nous, on n'est pas nécessairement informé. Et là, on va parler justement de la grande muette, à savoir l'armée. Où il y a cette annonce de la ministre des Armées, Florence Parly, qui explique que l'armée va plutôt s'orienter vers une armure genre Iron Man, mais non à l'augmentation et à la mutation génétique de Spider-Man. C'est en fait le sujet du développement des soldats qu'on va appeler augmentés, et ça touche le cœur de l'armée française. La ministre s'est prononcée à la suite de l'avis délivré à titre consultatif d'un comité d'éthique de la défense. Ce comité est chargé d'apporter des éclairages sur les questions éthiques soulevées par les innovations scientifiques, techniques et leurs éventuelles applications militaires. Ça a été fondé fin 2009, ce comité. Il s'est réuni pour la première fois il y a un an, en janvier 2020, et il devait donner son avis sur deux thématiques, le soldat augmenté d'un côté et l'autonomie dans les systèmes d'armes létaux, c'est-à-dire les robots tueurs, entre guillemets, de l'autre. Dans le premier sujet, donc celui du soldat augmenté, les membres du comité ont exploré la thématique de l'exploitation de techniques invasives pour améliorer les performances physiques et cognitives du corps humain. Alors comment ? Eh bien, il y a plusieurs solutions. Absorber des molécules, introduire des implants sous-cutanés ou introduire des implants dans le cerveau directement. Et avec cette technologie, l'implant permettrait ainsi au cerveau de communiquer directement avec des ordinateurs. À l'époque, l'idée n'était pas tant d'augmenter les capacités des soldats, mais de permettre aux blessés, lors des combats, de retrouver des sensations auditives ou visuelles. Mais il y a aussi d'autres techniques invasives qui sont également concernées, et des techniques un peu définitives, comme l'augmentation de l'acuité visuelle de façon chirurgicale afin de pouvoir se passer de longue vue. Alors oui, effectivement, si avec une opération chirurgicale, vous réussissez à avoir des soldats qui ont une vue telle un œil de lynx pour vous passer de matériel pour voir loin, effectivement, dans son discours sur ce rapport, la ministre Florence Parly a tout de même nuancé la portée de ces techniques invasives pour le soldat augmenté, en soulignant qu'il fallait pour le moment mettre fin à tout fantasme, et en précisant que ces évolutions dites invasives ne sont pas à l'agenda des armées françaises. Fin de citation. En revanche, il ne faut pas se leurrer, la ministre a également souligné que tout le monde n'a pas nos scrupules à nous, Français, et c'est un futur auquel il nous faut nous préparer. Donc la France ne dit pas nécessairement non aux soldats augmentés, mais elle choisit un peu ses modalités. Le principe restera de toujours rechercher des alternatives aux transformations invasive définitive. Ainsi, plutôt que d'implanter une puce sous la peau, nous chercherons à l'intégrer à un uniforme, c'est ce que souligne justement la ministre. Les augmentations plus invasives devront nécessairement recueillir le consentement des soldats, et dans tous les cas, ces augmentations devront être réversibles et ne pas compromettre la santé ou la sécurité des militaires. Alors, si l'armée a mandaté ce comité, c'est parce que la France, tout comme l'armée américaine, est préoccupée par des expérimentations qui sont menées par d'autres pays sur des humains. Ce serait notamment le cas en Chine, où des tests auraient été réalisés. Le conditionnel, évidemment, s'impose dans ce cas, parce qu'on n'a pas les preuves, mais en tout cas, des tests auraient été réalisés sur des soldats chinois afin d'améliorer biologiquement, leur capacité. Des affirmations que la diplomatie chinoise a qualifiées de mensongères, mais au-delà du côté invasif exercé sur ce fameux soldat augmenté, l'armée française et les industriels du secteur développent de nombreuses technologies qui vont être par exemple des ceintures équipées de vibreurs, ce qui peut permettre à des soldats et à leurs chiens de communiquer à distance, des radars qui vont permettre de détecter une présence à travers un mur, on en avait déjà parlé dans cette émission, et donc on aurait l'idée d'avoir un soldat augmenté qui serait loin d'un véritable cyborg, mais en tout cas c'est ce qui se passe en France. C'est un article dans... sur le site internet de Futura Science, qui est vraiment intéressant parce que c'est très souvent le cas dans cette émission. Je n'ai malheureusement pas la possibilité de rentrer à l'intérieur des laboratoires de recherche et notamment au sein des laboratoires de recherche des armées un petit peu partout dans le monde. Donc on ne sait pas trop ce qui se passe en fait à l'intérieur. Et on communique évidemment sur des choses qu'on peut éventuellement tolérer. Et ce qui veut dire, et on le sait très bien, qu'il y a la technologie, la recherche, la science avance, ne va pas s'arrêter à des questions éthiques. Ce sont les scientifiques qui doivent avoir, ce sont les hommes qui doivent avoir ces questions éthiques. La science n'en a pas. Et justement, que se passe-t-il? Que se développe-t-il dans certaines armées pour avoir justement des soldats beaucoup plus performants? C'est une vraie question. Et des films de science-fiction qu'on a tous vus avec des soldats augmentés, entre guillemets, ne seraient peut-être plus nécessairement des films de science-fiction. Et la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas une vision vraiment claire et exhaustive de la situation actuelle de l'avancée des technologies dans ce domaine-là. Donc, ce comité français a permis un petit peu de voir où est-ce qu'on en est et surtout a permis de définir quelles étaient les orientations prises par l'armée française. Mais qu'en est-il d'autres pays? Où en sont les avancées, même en France, dans ce domaine-là? On ne le sait pas encore actuellement, mais en tout cas, ce genre d'article nous permet un petit peu de nous arrêter sur ce genre de sujet, bien évidemment. Autre chose, et ça on en avait déjà parlé dans cette émission, on retrouve encore des articles sur les cigarettes électroniques. J'ai oublié de noter la date, l'année dans laquelle ces cigarettes ont commencé à se développer. Je n'ai pas d'idée en tête, mais dès le départ, je me souviens dans cette émission, il y a peut-être 7-8 ans, je pense, hein, je ne me rappelle plus, mais en tout cas, j'avais évoqué l'idée qu'on n'a pas le recul du tout sur ce genre de nouveaux produits. Et on commence maintenant, depuis un an ou deux à peu près, à avoir des résultats de premières analyses, de premières études, de premières recherches qui ont été mises en place sur ces cigarettes électroniques. Et d'une façon générale, c'est quand même pas de bon augure, en fait. Là encore, on a un article qui évoque donc ces parfums dans les cigarettes électroniques qui attirent de nombreuses personnes en remplacement de la cigarette traditionnelle. Elles sont parfois conseillées dans le cadre d'un sevrage tabagique, évidemment, soit seules, soit en complément d'autres dispositifs. Et parmi les utilisateurs de cigarettes électroniques, les lycéens représentent une part non négligeable. Selon un baromètre qui date de 2017, donc déjà 4 ans, près de la moitié des jeunes de 17 ans ont déjà vapoté, donc utilisé ces cigarettes électroniques. Un des attraits de cette cigarette, c'est la grande variété de parfums qui vont aromatiser le liquide. Le liquide, il est chauffé par la cigarette pour former une genre de vapeur qui est alors inhalée. Et ces parfums qui sont ajoutés à un solvant composé d'un mélange de glycérine végétale et de propylène glycol avec ou sans nicotine, eh bien la question, est-ce que ces parfums sont-ils sans risque pour la santé? Eh bien, il y a donc eu une étude récente qui a été publiée dans The American Journal of Physiology qui démontre des effets toxiques de certains arômes de cigarettes électroniques sur le cœur de jeunes souris. À l'université de Floride, une équipe de chercheurs a testé l'effet de 3 parfums de cigarettes électroniques un parfum exotique qui combine des arômes un peu fruits de la passion, orange et goyave, un parfum qui imite celui un petit peu de la vanille, et un dernier qui va reproduire un peu de la pomme et cannelle. Et la toxicité des fumées qui sont générées par ces trois liquides a été testée dans une série d'expériences in vitro sur des cellules musculaires cardiaques de souris. Et les trois parfums ont précipité la mort de ces cellules par rapport à des cellules qu'on a exposées comme ça à l'air. Et donc on a fait une comparaison. Et donc, on a vu que ces cellules qui étaient soumises à ces fumées, ces cellules ont vu leur mort précipitée, justement. Le parfum à la vanille semble le plus toxique, et ensuite le parfum un peu fruit exotique. Et donc, sur des cellules humaines, cette fois, de muscles cardiaques en culture, les chercheurs ont testé les effets sur leur activité électrique. Et la fumée générée par donc ce liquide qui est uniquement composé du solvant, donc il n'y a pas les parfums, semble ne pas modifier l'activité électrique des cellules. Par contre, cette activité, elle diminue lorsqu'on va ajouter de la nicotine et encore plus si on rajoute du parfum et notamment du parfum à la vanille. Et les cellules qui ont été exposées à la fumée avec ces parfums se contractent moins souvent que les autres, ce qui pour des cellules du cœur est quand même de mauvais augure, évidemment. Cette expérience nous a montré que les produits chimiques aromatisants ajoutés aux appareils de vapotage peuvent augmenter les dommages au-delà de ce que la nicotine seule peut faire. C'est ce qu'explique Sami Noujaim, chercheur ayant participé à cette étude. Dans un communiqué de presse, il a évoqué cela. Les troubles observés sont aussi présents chez donc les jeunes souris, parce que cette fois, on a fait des expériences in vivo, donc directement sur les souris. Les chercheurs ont placé ces souris dans une chambre de vapotage où elles ont été exposées à de la fumée parfumée à la vanille pendant 5 jours par semaine. Et après 10 semaines, les souris exposées à la fumée présentaient des fluctuations dans la durée entre chaque battement du cœur, donc on était en présence d'une arythmie cardiaque en clair, et les chercheurs pensent que la fumée pourrait altérer le contrôle nerveux du rythme cardiaque. Donc il y a un véritable impact, c'est ce que montre cette étude. Alors, c'est ce que montre cette étude sur les souris en conditions réelles, entre guillemets. On n'en sait rien encore et on ne sait pas si c'est transposable à l'être humain, c'est toute la difficulté évidemment, parce qu'on va difficilement mettre des êtres humains dans une chambre de vapotage et leur soumettre cette expérience. Mais en tout cas, on voit très bien que ça a un impact sur les souris et donc par corrélation, on se dit que cela pourrait avoir un impact sur l'homme. Des études réalisées sur des volontaires sont nécessaires, ok, il va falloir être volontaire, environ un tiers des Français pensent que la cigarette électronique est moins nocive que la cigarette ordinaire et la littérature scientifique sur le sujet ne cesse de s'étoffer, c'est ce que je vous disais, avec parfois des conclusions contradictoires, ce qui témoigne un peu des incertitudes qui persistent sur les effets sur la santé de ces cigarettes électroniques, même si d'une façon assez global et assez majoritaire, les résultats de ces premières recherches ne donnent pas véritablement une image positive de ces cigarettes électroniques. À bon entendeur, salut, on va continuer à écouter un petit peu de musique. Tiens, Mister Oiseau, mais il y a des années que je ne l'ai pas écouté. On va parler, tiens, il paraît que tu danses comme un pharmacien. Ça a peut-être un lien avec l'article que l'on vient d'évoquer. Vous écoutez Graphite ? Merci de votre fidélité. À tout de suite.
Tu danses. 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 Tu danses comme un pharmacien. Tu danses comme un pharmacien. Tu Tu danses comme un pharmacien. 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 Pharmacien, 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 pharmacien.
Dancing like a pharmacist.
Tu danses comme un pharmacien. Danse. 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 Tu danses.
Dancing like a pharmacist. Dancing like a pharmacist. Dancing like a pharmacist.
Tu danses comme un pharmacien. 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 Tu danses comme un pharmacien.
Moi, ça me fait rire, je sais pas. C'est Mr. Wazock, pharmaciste sur Antenne de Graphite. On retrouve bien son style, en fait. Il n'a pas trop changé. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h. Pour vous tenir informés de l'actualité scientifique, je rappelle que vous pouvez nous suivre sur graphite.net. Pour ceux qui nous écoutent sur Internet, en direct ou en différé grâce au podcast. Sur la bande FM 94.9 pour ceux qui nous suivent donc sur la bande FM dans l'Aisne, l'Oise et la Somme, et Facebook Live pour ceux qui nous suivent sur la page Facebook de Graphite, bien évidemment. Biotine, l'émission de science tous les samedis entre 12h et 13h. Vous avez parlé il y a quelques années maintenant du cœur artificiel Carmat. On en avait parlé parce que les premiers essais réels sur des vraies personnes n'avaient pas été nécessairement concluantes à l'époque. Eh bien, la technologie s'est améliorée et aujourd'hui, le cœur artificiel Carmat a obtenu il y a peu la certification européenne pour être commercialisé en Europe et dans certains pays qui acceptent cette certification comme gage de qualité. Le cœur artificiel Carmat a aussi obtenu il y a peu un forfait d'innovation. Alors, rappel, ce cœur artificiel contient deux chambres dont chacune est séparée par une membrane en un compartiment sanguin et un compartiment liquide. Et ce fluide un peu visqueux mis en mouvement par deux pompes électro-hydrauliques vont actionner les membranes, vont produire un écoulement pulsatile. Donc, on va avoir donc des pulsations qui vont se mettre en place, des capteurs de pression et des composants électroniques pilotent le système, s'adaptent aux besoins du patient. patient et tout ça est intégré dans la prothèse. Il y a des valves biologiques qui sont placées aux entrées et aux sorties des ventricules et le cœur artificiel est connecté aux oreillettes avec des brides de suture bioprothétiques, nous dit-on. Les conduits de sortie sont suturés sur l'aorte et l'artère pulmonaire. On capte tout ça, on connecte tout ça. C'est de la plomberie, ça fonctionne. Le dispositif est partiellement recouvert par un sac souple qui contient un fluide d'actionnement. La transmission alimente le cœur artificiel, récupère des informations sur les performances de l'appareil. Et dans la configuration actuelle, en fait, cette transmission est connectée à une console de l'hôpital. En l'espace donc de quelques mois, ce cœur artificiel a obtenu un forfait d'innovation suite à l'avis favorable de la Haute Autorité de Santé en avril dernier et à l'accord du ministère des Solidarités et de la Santé dans un arrêté qui date de septembre 2020. Le forfait d'innovation est un pari éclairé sur une innovation à fort potentiel, hein, si on reprend les mots de la présentation qu'en fait le ministère. Le cœur artificiel va donc être prise en charge selon cet arrêté pendant une durée de 48 mois pour un maximum de 52 patients. La certification européenne permet à l'entreprise de commercialiser son cœur et assure que son produit répond à des exigences dites essentielles, comme le fait que l'utilisation du produit ne compromettra ni l'état clinique ni la sécurité des patients. C'est-à-dire que depuis plusieurs années, on n'a plus entendu parler de ce cœur artificiel. Ça veut dire que la technologie s'est améliorée et ça veut dire qu'au final, enfin, ce cœur artificiel est donc prêt à être commercialisé et pris en charge forfaitairement par la Sécurité sociale en France. C'est ce qui a été donc annoncé il y a quelques semaines et voilà, c'était aussi l'occasion dans cette émission de pouvoir évoquer cela. Autre chose, on va parler du vélo électrique. Ça aussi, c'est totalement une nouvelle technologie qui est maintenant très bien répandue. Il y a eu Bafang, il y a eu Bosch, il y a eu Yamaha qui ont peut-être des soucis à se faire parce qu'il est peut-être un petit peu trop tôt pour le dire, mais une chose est certaine, il y a l'arrivée désormais de Valeo sur le marché du vélo électrique qui va faire du bruit, d'autant que l'équipementier français débarque avec une innovation alors qu'il n'hésite pas à présenter comme une première mondiale dans son communiqué de presse. Il s'agit d'un moteur électrique couplé à une boîte de vitesse automatique adaptative. C'est-à-dire qu'on va avoir maintenant des vélos électriques automatiques. Ça va se faire tout seul, il n'y aura plus rien à faire, ça va être trop génial. Le module est intégré au pédalier et à la transmission à la roue arrière. Se fait donc tout ça au moyen d'une courroie et non d'une chaîne. Il n'y aura donc plus de dérailleur, il n'y aura plus de cassette, il n'y aura plus de commande de vitesse au guidon. Le moteur électrique est une adaptation d'un équipement qui est déjà présent dans la gamme du constructeur et dont il maîtrise la production en masse. Et il développe quand même une force assez élevée pour un vélo électrique. La boîte de vitesse automatique, elle est signée par Efiger, qui est une entreprise française qui développe cette solution depuis déjà plusieurs années. Et cette boîte de vitesse compte 7 vitesses pilotées par un algorithme qui adapte le rapport en fonction du pédalage. Le cycliste n'a pas à jouer donc avec des commandes pour passer les vitesses. Il pédale à son rythme et la boîte automatique fait le reste. Je vous dis que c'est génial, maintenant ça se fera tout seul. Ce vélo va donc multiplier par 8 l'effort du cycliste, c'est ce qu'explique l'équipementier, selon lequel un vélo lesté de 150 kg est capable de gravir une pente de 14% sans infliger d'effort particulier. Mon Dieu, je veux voir ça. Ce module, moteur et boîte de vitesse peut être monté sur des vélos électriques urbains. C'est ça qui peut être intéressant. La promesse, elle est donc enthousiasmante et elle pourrait initier une évolution majeure sur le marché du vélo électrique à condition que le poids total de ce module et son prix permettent de pouvoir le décliner sur des gammes variées et tendues de vélos à assistance électrique. Valeo dit être actuellement en discussion avec des fabricants de vélos électriques qui testent sa solution et annoncent justement des vélos cargo dotés de son système seront commercialisés à la fin de cette année. Et il y a donc une belle carte à jouer sur ce segment. Des vélos utilitaires de plus en plus utilisés par les services de livraison par exemple. Et d'après des photos officielles qui ont été communiquées à la presse, eh bien, c'est assez intéressant. Vous pouvez regarder ça sur différents articles. Mais voilà, donc du coup, il y a Valeo qui se lance sur le vélo électrique et un petit peu l'innovation, c'est cette boîte automatique. Je voudrais bien voir ce que ça donne, mais c'est vrai que du coup, on n'a plus à dérailler. Enfin, c'est quand même pas mal. C'est une belle innovation. On suivra ça également de près. Autre chose, alors là, c'est aucun sujet, aucun lien avec ce que l'on vient de voir jusqu'à maintenant, c'est la déforestation en Amazonie qui a été analysée, étudiée, chiffrée également. Cette déforestation en Amazonie, entre 2000 et 2018, a atteint une surface aussi grande que l'Espagne, nous dit-on, ce qui ampute donc de 8% la plus grande forêt tropicale du monde. C'est un rapport qui a été publié début janvier, il y a une dizaine de jours à peu près, et ce rapport s'intitule « L'Amazonie sous pression ». C'est un document du réseau amazonien d'information socio-environnementale géographique qui pointe du doigt, je cite, « l'avancée des activités minières, des projets d'infrastructure ainsi que la recrudescence des incendies de forêt. L'Amazonie est beaucoup plus menacée qu'il y a 8 ans », c'est ce que dénonce ce document d'un collectif de chercheurs et d'ONG qui avait déjà publié une étude similaire en 2012. Alors l'Amazonie, elle s'étend sur 9 pays, le Brésil, la Colombie, le Pérou, la Bolivie, l'Équateur, le Venezuela, le Suriname, la Guyana et la Guyane française. C'est donc environ 47 millions d'habitants. Il y a eu de nombreuses communautés indigènes également. Et donc sur cette période étudiée, c'est-à-dire 2000 à 2018, on apprend que l'année 2003 reste la pire en termes de déforestation. Ensuite, ça avait un petit peu baissé et ça atteint son niveau le plus bas en 2010 et que ça accélère de nouveau à partir de 2018. Et la surface déboisée a triplé ensuite pendant les 3 dernières années de cette étude. Le Brésil concentre 62% de la forêt amazonienne, mais plus de 85% de la déforestation a lieu sur son territoire. La situation ne fait qu'empirer. Depuis l'élection, il y a 2 ans, du président Jair Bolsonaro, qui est favorable à l'ouverture de zones protégées de territoires indigènes à l'exploitation minière et agricole. Donc ça ne va pas arranger les choses, bien évidemment. Les satellites de l'Institut national de recherche spatiale brésilien ont dénombré que plus de 11 000 km² de forêt avaient été détruits entre août 2018 et juillet 2019, donc moins d'un an. Le pire chiffre depuis les 12 dernières années, et donc ça s'empire, ça se précipite. C'est aussi au Brésil que se trouve plus de la moitié des poches d'exploitation minière illégale qui ont été répertoriées. En ce qui concerne les feux de forêt, c'est plutôt en Bolivie qu'il y a le plus de dégâts d'un point de vue proportionnel, avec 27% du territoire amazonien de ce pays qui est ravagé par les flammes dans cette période d'étude entre 2000 et 2018. Le document souligne qu'au moins 13% de la surface totale de la forêt a brûlé au moins une fois depuis 2001, certaines zones parvenant à se régénérer après les incendies. Bref, ces données montrent qu'il serait important que les pays amazoniens travaillent ensemble pour combattre l'avancée de la déforestation à l'échelle de la région. C'est ce qu'explique Juliana Giacomini, chercheuse de l'Institut social environnemental, qui est une ONG brésilienne, membre donc de ce comité d'études. Pardon, je vais y arriver. Donc voilà, la forêt amazonienne a perdu donc un territoire de la taille de l'Espagne en 18 ans. C'est immense, c'est énorme. Et c'est de mauvais augure parce que ça, c'est en train de se poursuivre malheureusement. On écoute un dernier titre avant de se dire au revoir sur l'antenne de Graphite. Et on se retrouve juste après David de Biton sur l'antenne. Thank you. Voilà, c'était David Bilton avec Génome sur l'antenne de Graphite. On va se quitter avec cette dernière information. C'est un petit jeu que je vous propose. Et ce petit jeu, une petite question. Quel est, d'après vous, l'âge de l'univers ? Il y a des observations qui ont été réalisées avec une résolution sans précédent qui donne aujourd'hui plus de précision sur l'âge de l'univers. Alors, c'est vrai qu'on, c'est assez difficile de pouvoir... Là, on est sur des valeurs quand même assez importantes qui nous dépassent parce que, déjà, c'est quand même pas évident de déterminer l'âge de l'univers. C'est pas simple. Les astronomes y travaillent depuis longtemps. Et donc, il y a des nouvelles observations qui semblent vouloir mettre tout le monde d'accord. Ce sont les résultats des chercheurs de l'université Cornell aux États-Unis qui donne un âge à l'univers. Alors voici le résultat, hein, vous avez eu le temps de réfléchir. L'âge de l'univers, il est estimé à 13 770 millions d'années. 13 milliards d'années. Hein. Alors on nous dit, attendez, hein, c'est une estimation, c'est à 40 millions d'années près quand même. Mais 13 milliards 700 millions d'années. On n'arrive pas en fait à imaginer ce que cela signifie, on ne se rend pas compte. On est vraiment sur des dimensions qui nous dépassent totalement. 13 milliards 700 millions d'années. Retenez ce chiffre parce que ça, c'est toujours intéressant. C'était l'ancienne rubrique de cette émission qui s'appelle « Savoir étaler sa science ». Il y a toujours un moment où il faut qu'on place une information et les gens vous regardent et disent « Ah, wow, bravo, il en sait pas mal des choses ». Donc là, retenez ce chiffre et vous essayerez de le placer dans une conversation avec des amis, la famille, vos collègues. Mais sais-tu quel est l'âge de l'univers ? Et personne ne le sait, parce que c'est un chiffre qu'on n'a jamais entendu ou qu'on n'arrive pas vraiment à assimiler, et bien là, c'est donc 13 milliards 700 millions d'années. Pour en arriver à cette estimation, en fait, les astronomes se sont appuyés sur des données de fond diffus cosmologiques qui ont été recueillies par un télescope cosmologique qui se trouve au Chili il y a quelques années de ça, 2013-2016. Ce télescope récupérait des informations et ces informations ont ensuite été exploitées et analysées par ces astronomes. Et en fait, ça rejoint un peu les valeurs qui avaient été fournies par un modèle standard de simulation de la cosmologie et qui avait été mis en place par l'Observatoire spatial Planck de l'Agence spatiale européenne il y a un peu plus de 10 ans. Et on a à peu près sur aussi des estimations un peu similaires. Et donc tout ça corrobore un petit peu ce qui avait été estimé il y a une dizaine d'années. Il y a en 2019 une équipe de chercheurs qui également se sont basés sur des mesures de mouvement des galaxies qui avaient estimé que l'univers pouvait être un petit peu plus jeune de centaines de millions qu'on le pense. Bon, on est quand même à une estimation de 13 milliards, donc quelques centaines de millions, ça a finalement pas un véritable impact, tellement ça nous dépasse tout ça. Et du coup, voilà, on est en général sur des estimations à la louche, assez similaire. Bon, il y a des écarts entre ces mesures, mais on est bien sur une précision quand même difficile à obtenir selon les différentes méthodes qu'on utilise. Mais le fait que pour la première fois, il y a des mesures indépendantes réalisées sur ce fond diffus cosmologique donne le même résultat, alors que les mesures plus locales conduisent toujours à un âge plus jeune, eh bien, ça pourrait être le signe qu'on serait peut-être à l'aube d'une découverte qui changera notre compréhension du fonctionnement de l'univers. On est aussi dans cette recherche-là, évidemment, essayer de comprendre la formation, le fonctionnement de l'univers. Et donc, du coup, ces études qui portent sur plusieurs années quand même, hein, parce qu'on est quand même sur des exploitations de résultats qui ne se font pas en quelques semaines, mais là, on parle quand même d'études d'analyses d'études qui ont duré à peu près 5 ans minimum. aboutissent donc au résultat, je vais y arriver, de cette estimation de 13 770 millions d'années pour l'univers. Eh ben mon vieux bonhomme, t'es pas tout jeune. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Biotine sur l'antenne de Graphite. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre et suivre toutes les émissions de Graphite sur le site internet graphite.net. Vous avez la possibilité de pouvoir récupérer les podcasts, bien évidemment, de nous écouter en direct, en continu sur Graphite 94.9 sur la bande FM, bien évidemment, et de suivre de plus en plus les émissions de Graphite sur le Facebook Live de l'émission, et ce qui vous permet de voir un petit peu l'intérieur du studio, l'envers du décor, et également de suivre cette émission sous une nouvelle forme, et ça peut être très sympathique. On aura l'occasion tout au long de cette année de pouvoir un peu apporter des améliorations techniques et visuelles, notamment pour cette émission, parce que là, on a quand même parlé de pas mal de choses pour lesquelles des illustrations pourraient être proposées. Donc du coup, pour les émissions futures, on aura l'occasion d'évoquer cela, et ça va devenir une émission totalement incontournable, et c'est tout, et on le sait. Je vous souhaite une très bonne journée à l'écoute de nos programmes sur l'antenne de Graphite, bien évidemment. On se retrouve bien sûr samedi prochain pour une nouvelle émission. Nous serons le 23 janvier, hein, quand même. Et au niveau de l'actualité scientifique, au niveau de l'éphéméride, j'en ai pour une page, j'ai déjà le texte sous les yeux. Ça va être une émission bien dense également et bien intéressante. Merci de votre fidélité et de votre attention. Je vous souhaite une bonne journée. À samedi prochain, 12h sur l'antenne de Graphite. Merci à tous. Au revoir.